still whine every day like a shake of the sage bill. And if that don't make sense, and you're still there trying to make pence, don't holler at me cause people. À l'occasion des Nuits de la Lecture 2026, HDR vous invite à frissonner, mais aussi à rire. Rendez-vous samedi 24 janvier de 21h à 23h pour une émission spéciale, Les Contes de la Nuit, présentée par Willow, Aglaé et Michel, avec deux cartes blanches, aux bibliothécaires de la médiathèque du Châtelet et aux lycéens option théâtre du lycée Jeanne d'Arc, pour de la peur, du mordant et beaucoup d'espoir. Les Contes de la Nuit, le 24 janvier de 21h à 23h, uniquement sur HDR.
Les contes de la nuit.
Les contes de la nuit.
Vous êtes sur Radio HDR.
Culture malmenée, attaquée, budget en baisse. Le jour est grave. Mais nous nous levons, fiers. Nous sommes les guerrières et les guerriers des nuits de la lecture.
Ville et campagne, un conte chinois, L'enfant du bananier, un conte français, The V te manger. Maïkan, un loup venu du Québec, Cendrillon, Blanche-Neige, Pinocchio, méconnaissable, et même un barbe bleue féministe et piquant.
Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue à cette émission spéciale Les Contes de la Nuit. Bonsoir à vous, Michel.
Bonsoir, Willow. Alors, dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026, nous vous proposons une émission en direct. Ah oui, en direct, pour vous raconter des histoires. Des histoires à dormir debout. Allez, bonsoir Aglaé, vous pouvez nous en dire plus ?
Bonsoir Michel, oui, je peux vous en dire plus. Aucune histoire à dormir debout, nous allons lire et parler de contes, frissonner, rire et rêver. Mais nous ne sommes pas seuls en studio ce soir.
En effet, nous aurons la visite de Perrine, Sylvie et Céline, des bibliothécaires de la bibliothèque municipale du Châtelet, qui ont des contes non pas à régler, mais à nous lire.
Mais avant de nous plonger dans la bataille des contes de la nuit, Willow, avez-vous pensé musique ?
Michel, c'est impossible d'aimer la nuit sans musique. Je vous ai préparé une playlist de rêves. Patience, vous en saurez plus au cours des heures que nous allons passer ensemble.
Mais oui, chères auditrices et auditeurs, la musique sera bien présente dans cette émission. Mais tout d'abord, nous allons vous présenter nos invités. Ils et elles sont là pour vous, en chair, en os et surtout en voix. Nous accueillons Paul, Rosemey, Ahmed, Aya et Madeleine, qui sont en spécialité théâtre au lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir ?
Ce soir, nous allons vous présenter des lectures de
Pinocchio, de Joël Pommerat,
Blanche-Neige, une histoire de prince, de Marie Dilassée,
Cendrillon, de Joël Pommerat,
un débat sur les femmes de Barbe Bleue de la compagnie 13 sur 31,
et s'en suivra d'une lecture sur cet extrait.
À présent, nous vous laissons donc la parole à Aya, Paul et Madeleine pour un Pinocchio hors des sentiers battus.
Sur le chemin de l'école, devant une baraque de foire, on entend de la musique. Le pantin regarde en direction de la baraque. Il a l'air très attiré.
Tu veux rentrer ?
Peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?
Entre. Tu verras.
Je sais pas si je peux.
Pourquoi ?
J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je vais à l'école. Je commence des études ce matin.
Tu vas à l'école, c'est vrai ?
Oui, pourquoi ?
Eh, il va à l'école.
Oh là là !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux, l'école.
Ah bon ?
Mon copain qui est là-bas, il est allé à l'école. Il était comme toi, il savait pas. Il est tombé malade. On a dû l'opérer. Ils lui ont coupé la jambe, finalement. Ils lui ont mis une fausse maintenant, mais ça lui fait mal.
Ah bon ?
Bah, demande-lui si tu veux. Ça aurait pu être encore plus grave. En général, dans la vie, faut pas se lancer dans n'importe quoi sans réfléchir. L'école, on peut en mourir. C'est grave.
On ne m'avait pas dit.
Je sais. Ça se dit pas et pourtant, c'est vrai malheureusement.
C'est pas très drôle ce que vous me dites. Je sais pas ce que je peux faire.
Tu veux entrer ?
Je veux bien. Ça peut me permettre de réfléchir un peu.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est une bonne idée. Tu as de l'argent ?
Comment ça ?
Pour rentrer là, tu as de l'argent ? C'est pas gratuit, tu penses bien?
Ah bon?
T'as pas d'argent?
Non.
Tu peux pas rentrer alors. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur, mon vieux.
Une femme très élégante entre et observe la scène.
Et si je vous donne ça?
Il montre le livre.
Il est neuf. Mon père l'a échangé contre un manteau.
Prenant le livre, le soupesant en regardant son collègue.
Bon, pour te faire plaisir, je veux bien. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir.
HDR, c'est sur le 99.1.
Merci beaucoup pour cette lecture de Pinocchio. Maintenant, on va passer au long, large et clairvoyant. Un conte salve traduit par Louis Léger, linguiste et traducteur, en 1882. Dans l'introduction du recueil, Léger dit lui-même s'être amusé sur ses heures de loisir à traduire plusieurs contes slaves. Il les a réunis en un même livre en expliquant avoir été le plus fidèle possible au texte original dans ses traductions. Certaines formulations vous sembleront peut-être étranges, mais nous vous lirons ce conte fidèlement à sa traduction.
Il y avait une fois un roi, et il était vieux, et il n'avait qu'un seul fils. Une fois, il appela ce fils auprès de lui et lui dit « Mon cher fils, tu sais bien que je suis déjà vieux et que le soleil ne luira plus longtemps sur ma tête. Avant de mourir, je voudrais bien voir ma future belle-fille, ta femme. Marie-toi, mon fils. » Le prince répondit « Je voudrais bien, mon père, faire ta volonté, mais je ne connais pas de fiancée. » Le vieux roi tira de sa poche une clé d'or et la donna à son fils. « Va-t'en là-haut, tout au haut de la tour, regarde autour de toi et tu me diras quelle est celle que tu choisis. » Le fils du roi immédiatement monta en haut de la tour. Il n'y était jamais allé et il ne savait pas ce qu'elle pouvait renfermer. Quand il fut arrivé tout au haut de la tour, il vit dans le plafond de la dernière salle une porte de fer en forme de trappe. Il l'ouvrit avec la clé d'or, la souleva et pénétra dans une grande salle ronde dont le plafond était bleu comme le ciel dans les nuits claires et illuminé d'étoiles dorées. Le plancher était couvert d'un tapis de soie verte et autour du mur, il y avait 12 fenêtres hautes avec des châssis d'or. Sur le cristal de chacune de ces fenêtres était peinte une jeune fille. Elles étaient toutes plus belles l'une que l'autre. Et je m'étonne que le jeune prince, à force de les admirer, n'ait pas laissé ses yeux sur elles. Tandis qu'il les regardait ainsi, ne sachant laquelle choisir, ces vierges se mirent à remuer comme si elles étaient vivantes. Elles le regardaient, elles souriaient, on eût dit qu'elles allaient parler. Tout à coup, le prince remarqua que l'une des fenêtres était cachée par un rideau blanc. Il l'écarta et vit une jeune fille en robe blanche, ceinte d'une ceinture d'argent, avec une couronne de perles sur la tête. C'était la plus belle de toutes. Mais elle était triste et pâle, comme si elle sortait du tombeau. Le prince resta longtemps devant cette image comme devant une apparition. Son cœur, en la contemplant, fut saisi de tristesse, et il s'écria « C'est celle-ci que je veux, et non une autre. » Comme il disait ces mots, la jeune fille baissa la tête, rougit comme une rose, et aussitôt toutes les autres images disparurent. Quand il descendit et dit à son père ce qu'il avait vu et quelle fiancée il avait choisie, le vieux roi fut saisi de tristesse et lui dit « Tu as mal fait, mon fils, d'avoir découvert ce qui était caché. Tu t'es jeté dans un grand danger. Cette jeune fille est en la puissance d'un méchant enchanteur dans un château de fer. De tous ceux qui ont essayé de la délivrer, aucun jusqu'ici n'est revenu. Mais ce qui est fait, la parole donnée est une loi. Va, tente ta fortune et reviens sain et sauf. » Le jeune prince se sépara de son père, monta à cheval et partit à la recherche de sa fiancée. Et il traversa un grand bois, allant toujours devant lui, si bien qu'il se perdit. Tandis qu'il errait dans les fourrés, au milieu des ravins et des mares, il entendit tout à coup une voix qui criait « Hola, hé, attendez !» Le prince regarda et vit un homme très grand qui courait après lui. « Attendez-moi » criait-il, « prenez-moi à votre service. » Vous n'aurez point à le regretter. Qui es-tu ? Dit le fils du roi. Que sais-tu faire ? Je m'appelle Long, et je sais m'allonger à volonté. Voyez-vous ce nid là-haut sur ce sapin ? Je puis vous l'attraper sans monter à l'arbre. Et Long se mit à s'allonger, Il fut bientôt aussi haut que l'arbre. Il prit le nid, et en un clin d'œil, il se raccourcit et le donna au prince. Tu connais bien ton métier, dit celui-ci. « Mais à quoi me servent des nids d'oiseaux si tu ne peux me faire sortir de ce bois ?»« C'est bien facile, » dit Long. Et il se mit à s'allonger jusqu'à ce qu'il fût trois fois plus haut que l'arbre le plus haut de la forêt. Il regarda autour de lui et dit « C'est de ce côté qu'il nous sera le plus facile de sortir. » Puis il se raccourcit, prit le cheval du prince par la bride et marcha devant lui. Ils furent bientôt hors du bois. Devant eux s'étendait une large plaine, terminée par de hauts rochers gris comme les murs d'une grande ville. Ces rochers étaient couverts d'arbres. « Seigneur, dit Long, voici venir mon camarade. Vous devriez bien aussi le prendre à votre service. Il vous serait bien utile. » Crie après lui et appelle-le, pour que je voie ce que c'est. Il est encore un peu loin, répliqua Long. Il n'entendrait guère ma voix, et il se passerait un long temps avant qu'il n'arrive ici, car il a beaucoup à porter. J'irai plutôt le chercher. Et Long s'allongea tellement que sa tête se perdait dans les nuages. Il fit deux ou trois pas, prit son camarade sur ses épaules et l'apporta devant le prince. C'était un gros joufflu, il avait le ventre rond comme un muide. Qui es-tu ? Demande le prince, et que sais-tu faire ? « Seigneur, je m'appelle Large, et je puis m'élargir à volonté. » »« Montre un peu. »« Seigneur, sauvez-vous vite, bien vite, dans le bois !» cria Large, et il commença à s'enfler. Le prince ne comprenait pas pourquoi il lui disait de se sauver, mais quand il vit Long se sauver dans le bois, il fit comme lui, et piqua des deux. Il n'était que temps, car Large l'aurait renversé avec son cheval, tant son ventre s'était brusquement élargi de tous côtés. Il remplissait tout l'espace aux alentours, on eût dit une montagne. Large cessa de s'enfler, respira bruyamment d'un souffle qui fit trembler les bois et redevint ce qu'il était auparavant. « Tu m'as chassé, dit le prince, mais je ne trouverai pas tous les jours un gaillard tel que toi. Viens avec moi. » Ils continuèrent de marcher. Quand ils arrivèrent auprès des rochers, ils rencontrèrent un homme qui avait les yeux couverts d'un bandeau. « Seigneur, dit Long, c'est notre troisième camarade. Vous feriez bien de le prendre à votre service. Il ne mangerait certes pas votre argent pour rien. » « Qui es-tu ? Demanda le prince. « Pourquoi as-tu les yeux bandés ? Ne vois-tu pas ton chemin ?»« Bien au contraire, Seigneur, c'est justement parce que je vois trop que je suis obligé de me bander les yeux. Je vois aussi bien que s'il n'était pas bandé. Quand j'ôte mon bandeau, ma vue pénètre au travers de tout. Tout ce que je regarde prend feu, et ce qui ne peut brûler éclate en mille pièces. Je m'appelle clairvoyant. » Il se retourna vers le rocher, ôta son bandeau, et fixa sur le rocher ses yeux ardents. Le rocher se mit à craquer, à éclater en morceaux. En quelques instants, il n'en resta qu'un morceau de sable. Dans ce sable, quelque chose brillait comme du feu. Clairvoyant alla le ramasser et rapporta au prince un morceau d'or pur. « Tu es un gaillard impayable, dit le prince, bien fou qui ne te prendrait pas à son service. Puisque tu as de si bons yeux, dis-moi un peu si j'ai encore loin d'ici au château de fer et ce qui s'y passe en ce moment. » « Si vous y alliez seul, dit Clairvoyant, vous n'y arriveriez pas d'ici à un an. Mais avec nous, vous y arriverez aujourd'hui même. Maintenant, on y prépare le souper. Une princesse habite ce château. La vois-tu ? Un enchanteur la garde dans une haute tour sous des grilles de fer. Le prince dit « Aide-moi à la délivrer. » Ils promirent tous de la délivrer. Et ils le conduisirent parmi ces roches grises, par la brèche qu'avaient fait les yeux de clairvoyant, et par les rochers, les hautes montagnes et les bois profonds. Et toutes les fois que quelque obstacle se présentait sur la route, les trois camarades l'écartaient. Au moment du coucher du soleil, le prince vit le château de fer, et après son coucher, il franchit le pont de fer qui mène à la porte. Dès que le soleil fut couché, le pont de fer se releva de lui-même, les portes se fermèrent tout à coup. Le prince et ses compagnons furent pris dans le château de fer. Le prince mit son cheval à l'écurie où tout était préparé pour lui, et ils marchèrent au château. Dans la cour, dans l'écurie, dans les salles du château, ils virent bien des gens richement habillés, seigneurs et serviteurs, mais pas un d'entre eux ne bougeait. Tous étaient pétrifiés. Ils traversèrent quelques pièces et arrivèrent à la salle à manger. Elle était brillamment éclairée. Il y avait une table au milieu, elle était couverte de mets et de boissons, et le couvert était mis pour 4 personnes. Ils attendirent, pensant que quelqu'un allait venir, puis voyant que personne n'arrivait, ils s'assirent, mangèrent et burent à volonté. Après avoir bien mangé, ils regardèrent où ils pourraient dormir, mais tout à coup la porte s'ouvrit et l'enchanteur entra dans la salle. C'était un vieillard bossu, à long habit noir, la tête chauve, une barbe grise descendant jusqu'à ses genoux. Il avait en guise de ceinture 3 cercles de fer. Il conduisait par la main une dame admirablement belle et vêtue de blanc. Elle avait sur elle une ceinture d'argent, une couronne de perles sur la tête, mais elle était pâle et triste comme si elle sortait du tombeau. Le prince la reconnut aussitôt et alla au-devant d'elle. Mais le magicien ne lui laissa pas le temps de parler et il lui dit « Je sais pourquoi tu es venu. Soit, prends-la si, pendant 3 nuits, tu peux arriver à l'empêcher de t'échapper. Si elle t'échappe, tu seras pétrifié avec tes serviteurs, comme tous ceux qui sont venus avant toi. » Puis il montra à la princesse un siège, l'invita à s'asseoir et partit. Le prince ne pouvait détacher ses yeux de la princesse tant elle était belle. Il se mit à lui parler, lui demanda toutes sortes de choses, mais elle ne répondait pas, elle ne souriait pas, elle ne regardait personne. On eût dit qu'elle était de marbre. Il s'assit auprès d'elle et résolut de ne pas dormir de la nuit pour qu'elle ne pût lui échapper. Pour plus de sûreté, Long s'allongea comme une courroie et s'étendit le long du mur tout autour de la salle. Large se mit à la porte et s'enfla de telle sorte que même une souris n'aurait pas pu passer. Clairvoyant s'appuya pour veiller à la colonne du milieu, mais en un clin d'œil, tous se mirent à dormir, et ils dormirent toute la nuit. Le matin, quand vint le jour, le prince se réveilla le premier. La princesse était partie. Que faire ? « Ne vous inquiétez pas, seigneur, dit Clairvoyant, je la vois déjà. À 100 lieues d'ici, il y a un bois. Au milieu du bois, un vieux chêne. Sur le haut de ce chêne, un gland. Ce gland, c'est elle. Que Long me prenne sur ses épaules, et nous l'obtiendrons. » Long le prit aussitôt, s'allongea et se mit en marche. À chaque pas, il faisait 10 lieues, et Clairvoyant lui indiquait le chemin. En moins de temps qu'il n'en faut pour faire le tour d'une chaumière, ils furent arrivés, et au retour, Long donna le gland au prince. « Seigneur, laissez-le tomber à terre. » Le prince le laissa tomber, et à l'instant, la princesse apparut à ses côtés. Et quand le soleil commença à se lever derrière les montagnes, la porte s'ouvrit bruyamment. L'enchanteur entra dans la chambre et se mit à rire étrangement. Mais quand il vit la princesse, il s'assombrit et se mit à grogner. Crac ! Un de ses cercles de fer éclata et sauta par terre. Il prit la jeune fille par la main et l'emmena. Tout le jour suivant, le prince ne fit que courir dans le château et regarder toutes les merveilles qu'il renfermait. Partout, il semblait que la vie se fût brusquement arrêtée. Dans une salle, il vit un prince qui tenait dans ses deux mains une masse d'armes et la brandissait d'un air menaçant. Mais le coup n'avait pas porté. Il avait été pétrifié. Dans une autre pièce, il y avait un chevalier pétrifié dans l'attitude de quelqu'un qui fuit. Il s'était heurté le pied contre le seuil de la porte, mais il n'était pas tombé. Sous une cheminée se trouvait un serviteur qui tenait d'une main un morceau de rôti et de l'autre portait une bouchée à sa bouche. La bouchée était restée en chemin. Il en vit bien d'autres encore, dans l'attitude qu'ils avaient quand l'enchanteur leur dit « Soyez pétrifiés ». Dans le château, tout autour du château, tout était triste et morne. Il y avait des arbres, mais sans feuilles. Il y avait des prairies, mais sans herbe. Il y avait une rivière, mais elle ne coulait pas. Pas un oiseau chanteur, pas une fleur, pas un poisson dans l'eau. Le matin, à midi et le soir, le prince, avec ses compagnons, trouva dans le château un bon souper. Les mets s'apportaient d'eux-mêmes, les vins se versaient eux-mêmes. Après le souper, les portes s'ouvrirent encore et l'enchanteur ramena la princesse pour que le prince la surveillât. Tous se promirent de bien faire tous leurs efforts pour ne pas s'endormir, mais cela ne servit à rien. Ils s'endormirent. Quand le prince se réveilla le matin et vit que la princesse avait encore disparu, il réveilla Clairvoyant. « Lève-toi, Clairvoyant, sais-tu où est la princesse ?» Clairvoyant s'essuya les yeux, regarda et dit « Je la vois. À 200 lieues d'ici, il y a une montagne. Dans cette montagne, un rocher. Dans ce rocher, une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, c'est elle. Que l'on me porte là, nous la trouverons bien. » Long le prit aussitôt sur ses épaules, s'allongea et se mit en marche. À chaque pas, il faisait 20 lieues. Clairvoyant fixa sur la montagne ses yeux ardents. La montagne éclata et sauta en 1000 morceaux. Parmi eux scintillait la pierre précieuse. Ils la prirent et la portèrent au prince. Il la laissa tomber à terre et la princesse se dressa devant lui. Quand l'enchanteur vint et qu'il la vit, ses yeux étincelaient de rage. Crac ! Encore un cercle éclata et tomba. Il emmena la princesse en grondant. Ce jour-là, tout se passa comme la veille. Après le souper, l'enchanteur ramena la princesse, regarda le prince dans le blanc des yeux en disant « Nous verrons bien qui de nous deux l'emportera. » Ils se donnèrent ce jour-là le plus grand mal pour échapper au sommeil. Ils ne voulurent pas même s'asseoir, mais marcher toute la nuit. Tout cela fut en vain. Ils s'assoupirent l'un après l'autre et la princesse leur échappa. Le lendemain matin, ce fut encore le prince qui s'éveilla le premier. Ne voyant pas la princesse, il éveilla Clairvoyant. « Lève-toi, Clairvoyant, regarde où est la princesse. » Clairvoyant regarda longtemps dehors. « Oh Seigneur, elle est loin, bien loin. À 300 lieues d'ici, il y a une mer noire. Au milieu de cette mer, un coquillage gît au fond. Dans ce coquillage est un anneau d'or. Cet anneau d'or, c'est elle. Ne vous inquiétez pas, nous l'aurons. Mais aujourd'hui, l'on doit prendre large avec lui. Nous en aurons aussi besoin. L'on prit sur une épaule clairvoyant, sur l'autre large, s'allongea et se mit en marche. À chaque pas, il faisait 30 lieues. Quand ils furent arrivés auprès de la mer Noire, clairvoyant lui montra à quel endroit il devait chercher cette coquille. L'on étendit sa main autant que possible, mais il ne put cependant arriver au fond. « Attendez, camarade, attendez un instant, je vais vous aider, » dit Large. Et il s'enfla autant que son ventre le permettait, puis il se coucha sur le bord et but. Au bout d'un instant, l'eau baissait tellement que l'on atteignit sans peine le fond et retira l'anneau. Puis il prit ses camarades sur ses épaules et ils se mirent en marche pour retourner au château. Mais en route, il lui était difficile de courir parce que Large avait dans son ventre la moitié de la mer. L'on le jeta par terre dans une large vallée. Large fit en tombant un bruit pareil à celui d'un sac qui tombe du haut d'une tour. En un instant, la vallée fut remplie d'eau et changée en un grand lac. Large lui-même eut grand-peine à en sortir. Cependant, le prince était bien inquiet dans le château. L'aurore commençait à paraître et ses serviteurs ne revenaient pas. Plus la lueur augmentait, plus son inquiétude augmentait aussi. Une sueur mortelle coulait sur son front. Bientôt, le soleil apparut comme un filet rouge à l'Orient. La porte s'ouvrit brusquement et l'enchanteur se montra sur le seuil. Il regarda tout autour de la chambre et voyant que la princesse n'y était pas, il se mit à rire d'un vilain rire. Mais tout à coup, crac ! Une fenêtre éclata en morceaux, un anneau d'or tomba sur le plancher. La princesse était là. Clairvoyant, voyant ce qui se passait dans le château et en quel danger le prince était, l'avait dit à Long. Long avait fait un pas et avait jeté l'anneau par la fenêtre. L'enchanteur rugissait de rage à faire trembler le château. Tout à coup, crac, le troisième cercle de fer se brisa et tomba par terre, et l'enchanteur devint un corbeau et s'envola par la fenêtre brisée. Aussitôt, la belle dame se mit à parler et remercia le prince de l'avoir délivrée, non sans rougir comme une rose. Dans le château et autour du château, tout redevint vivant. Celui qui brandissait la masse d'armes la jeta en l'air, celui qui s'était heurté contre le seuil tomba par terre, mais il se releva aussitôt. Celui qui était auprès de la cheminée porta le morceau à sa bouche et continua de manger. Chacun acheva ce qu'il avait commencé. Les chevaux hennissent dans les écuries, les arbres verdissent autour du château, les prairies fleurissent, l'alouette vole dans l'air, les poissons frétillent dans l'eau, tout est vie, tout est joie. Beaucoup de seigneurs entrèrent dans la chambre où était le prince et tous le remercièrent de leur délivrance. Il leur dit « Vous n'avez point à me remercier. Si je n'avais pas eu mes fidèles serviteurs longs, larges et clairvoyants, je serais devenu ce que vous avez été. » Aussitôt après, il se mit en route pour aller retrouver son père, le vieux roi, avec sa fiancée et ses serviteurs. Le roi pleura de joie de bonheur de son fils. Il pensait qu'il ne reviendrait plus. Peu de temps après, la noce eut lieu avec une grande pompe. Elle dura 3 semaines. Tous les seigneurs que le prince avait délivrés furent invités. Après la noce, Long, Large et Clairvoyant annoncèrent au jeune prince qu'il retournait dans le monde chercher du travail. Le jeune roi fit tous ses efforts pour les retenir auprès de lui. « Je vous donnerai tout ce que vous voudrez tant que vous vivrez et vous n'aurez rien à faire. » Mais cette existence paresseuse ne leur plut pas. Ils prirent congé de lui et s'en allèrent. Et depuis ce temps-là, ils errent par le monde.
Bravo Willow, franchement bravo, hein. C'était magnifique. Moi, je m'y suis cru vraiment. Il y avait un petit quelque chose du Seigneur des Anneaux. Et surtout, vous avez vraiment lu ce conte, qui est assez long. Vraiment, vous l'avez lu comme un chef. Félicitations. Vraiment, ça m'a plu. Alors maintenant, on va passer à un petit débat parce qu'on voudrait savoir, je vous propose qu'on essaye un petit peu de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que le conte, d'où ça vient le conte. Alors j'ai invité Aglaé, donc Aglaé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire depuis l'année dernière, je crois, d'un Master 2 métier du livre et de l'édition que vous avez obtenu à l'Université de Caen-Normandie, c'est bien ça?
Exact.
Voilà. Donc, et vous avez réalisé votre rapport de stage, les contes du Fonds historique jeunesse de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. C'était de mars à juillet dernier. Hein.
Oui.
D'accord. Et donc, vous s'intitulez un rapport de stage, mais pour moi, il a la qualité d'un mémoire. Et donc, c'était vraiment pour ça que je voulais que vous soyez avec nous aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup.
Donc, on va commencer cet échange ensemble. Et alors, moi, la question que je me pose et qui va sûrement intéresser nos auditrices et nos auditeurs, c'est le conte. Voilà, il est souvent associé à la littérature jeunesse. Mais le conte n'est-il pas une forme de littérature à part entière et à la fois entièrement à part? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'en pense que c'est une question qu'un professeur à la fac aurait pu me poser et nous dire « faites une dissertation pendant 6 heures dessus ». Donc, c'est difficile d'être... C'est une question difficile et je vais essayer d'être... de pas trop m'étaler non plus. La première partie, c'est que le conte est souvent associé à la littérature jeunesse. Alors, oui, aujourd'hui, mais ça a longtemps pas été le cas, en fait. C'était plutôt... Plus que de la littérature jeunesse, on peut parler de littérature orale. Alors, c'est un terme qui est relativement récent comparé à depuis le temps où il y a des littératures orales. Mais en fait, c'est Paul Sébillot, en 1881, qui crée ce terme de littérature orale, donc paradoxale, mais pour parler de tout ce qui est conte, mais aussi contine, légendes, épopées, tout ce qu'on a l'habitude de se raconter et ce qu'on écrit, ce qu'on n'a pas pour tradition d'écrire. Donc plus que de la littérature jeunesse, c'est surtout de la littérature orale, les contes maintenant quand on les a dans les livres. Et aujourd'hui, c'est de la littérature jeunesse parce que ça s'y prête très bien. Et ça se prête très bien notamment aux albums avec des images. Ça se prête très bien à de la morale et à un conte, à une histoire initiatique d'apprentissage, d'éducation. Le conte n'est pas forcément un genre de littérature jeunesse, surtout.
Très bien. Très bien. Écoutez, nous, ça nous éclaire beaucoup. En tout cas, votre réponse nous éclaire beaucoup. Et en tout cas, vous n'avez pas mis 6 heures pour nous répondre.
Non, mais...
voilà. Mais voilà. Alors, moi, il y a une autre question qui m'est venue. Parce que dans ce que vous avez écrit, vous explicitez les différents styles de contes. Voilà, vous nommez, par exemple, contes de fées, les contes merveilleux. Alors, mais on va continuer un petit peu dans le côté intello. Parce que vous nous parlez de contes étiologique. Alors ça, c'est un mot savant. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce mot étrange, étiologique?
Bien sûr. Alors, étiologie, c'est la science de trouver des causes et des raisons à certains phénomènes. Alors, c'est beaucoup en médecine. En littérature, un conte étiologique, c'est quand on cherche une explication fictive à un phénomène parfaitement naturel. Donc, par exemple, pourquoi les corbeaux sont noirs? On peut penser qu'avant, ils étaient blancs, mais de chagrin, ils se sont roulés dans de la cendre, et aujourd'hui, tous les corbeaux sont noirs. Il y a beaucoup d'histoires étiologiques dans la littérature globalement. Ovid, il y en a une, pourquoi les roses sont rouges? C'est Aphrodite qui a saigné dessus parce que... Et c'est un exercice qui est aussi très drôle à faire avec des enfants, qui se prêtent beaucoup à l'imagination. Et en fait, des exercices d'écriture avec des enfants, d'écrire des contes étiologiques, ça marche, en règle générale, ça marche super bien. Enfin, je parle d'expérience personnelle. Quand j'étais petite, à l'école, on m'en a fait écrire. Ouais. C'était très marrant.
C'était très marrant. Voilà, ouais. Vous avez un souvenir de ça?
Oui.
Un particulier, ouais.
Oui, alors, j'avais écrit... Alors, c'était pourquoi les chenilles doivent... pourquoi les chenilles se transforment en papillons? Et c'est parce qu'il y avait différents types de chenilles. Et il y en avait une qui est très, très jalouse parce qu'elle avait vu un arc-en-ciel et elle voulait beaucoup de couleurs. Et donc, elle était allée chercher une sorcière qui lui a dit une formule magique. Et en fait, la formule magique, c'était passée par une chrysalide. Et donc, elle est devenue un papillon. Voilà, j'avais 8 ans.
Oh, c'est magnifique. Alors, justement, comment on reconnaît précisément un conte? Parce qu'un conte, est-ce qu'il a plusieurs éléments caractéristiques?
Alors, oui. Après, à quoi on le reconnaît précisément? Ça, c'est difficile à dire, puisque le conte est un genre flou qui échappe aux frontières. Par exemple, il y a plusieurs types de contes, des contes étiologiques, des contes d'animaux, des contes initiatiques. C'est rare qu'un conte ne s'en tienne qu'à un seul type de conte. Et même au sein de la littérature orale, comme je le disais, c'est rare que les contes, ce soit seulement des contes et qu'on puisse pas dire que ce sont aussi un peu des légendes ou aussi un petit peu des épopées. Enfin, voilà. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a souvent des formules, entre guillemets, un peu magiques. Mais par exemple, « il était une fois »,